Vous écoutez, on lit pour vous.
Vivre sa vie pleinement avec style dans des vêtements adaptés au handicap. Un texte de Julien Sahukiyo, paru le 2 juin 2024 dans Radio-Canada. Chaque matin, alors que la lumière pénètre doucement par les fenêtres de sa maison, Anita Kaiser fait une sélection minutieuse de ses vêtements pour la journée en fonction de son programme. Que ce soit pour travailler derrière son écran depuis chez elle, aller faire du sport comme de l'escalade ou tout simplement pour une sortie en ville, la coupe, les couleurs et le confort font partie des critères de sélection, mais pas seulement. Anita se déplace en fauteuil roulant après avoir subi une lésion de la moelle épinière. Trouver des vêtements adaptés à son mode de vie n'était pas évident et le diable se cache dans les détails. Avec les pantalons, quand on est assis, ils remontent au niveau des jambes. Habituellement, les gens s'en moquent parce qu'ils sont principalement debout. Pour les hauts, ils ne tombent pas bien quand on est assis. Soit ils ont l'air trop grands ou ils font des plis bizarres sur le devant ou sur les côtés. Ils sont faits pour les gens debout ou si vous vous tenez droit sur votre chaise. Mais comme je n'ai pas le contrôle complet de mes muscles, je suis souvent un peu courbé, explique Anita Kaiser. Revoir sa garde-robe est devenu une nécessité, tant pour des raisons de liberté de mouvement que d'estime de soi. Elle se souvient des premiers moments après son accident qui ont changé sa façon de s'habiller. Il y a un week-end dont je me souviens très bien. Ma sœur est venue me voir à l'hôpital pour m'aider à me préparer pour sortir ensemble. Elle m'avait amené des vêtements que j'avais à la maison. Quand j'ai mis mes vêtements plus élégants, ça ne fonctionnait pas en étant assise, se remémore-t-elle. Vous savez, lorsque rien ne va, que vous ne vous sentez pas bien, que votre apparence n'est pas à son meilleur, je ne voulais même plus sortir. J'ai éclaté en sanglots parce que je ne me sentais plus bien dans mon propre corps. Mais aujourd'hui, dans son garde-robe, Anita n'a qu'à tendre le bras pour trouver un vêtement qui lui ira pour la journée, en particulier les pantalons. C'est grâce notamment au travail d'Izzy Camilleri, une conceptrice de mode torontoise qui, depuis plus d'une dizaine d'années, se consacre à créer des vêtements adaptés, en particulier pour les personnes en fauteuil roulant. Son aventure avec sa marque Is Adaptive commence en 2005. Alors qu'elle travaille encore pour la haute couture et le cinéma, Izzy est approchée par Barbara Turnbull, une journaliste du Toronto Star à la recherche de vêtements adaptés. Quand j'ai commencé à travailler pour elle, je me suis rendu compte à quel point s'habiller était un défi. J'ai pris conscience de tellement de choses. Pas seulement en ce qui concerne les vêtements, mais aussi comment il vivait sa vie. Des choses que je tiens pour acquises chaque jour, raconte-t-elle. Depuis, ils sont nombreux à ne jurer que par ses vêtements et ses pantalons, sa marque de fabrique. Les pantalons sont ce sur quoi on travaille le plus. Quand vous restez tout le temps assis dans une paire de pantalons, ils peuvent devenir très inconfortables. Il y a toujours une couture derrière les pantalons réguliers et cette couture fait partie intégrante de ceux-ci. Ils divisent la droite de la gauche. Cela donne de la dimension entre l'arrière et l'avant, au niveau des cuisses, explique celle qui a développé une ligne de pantalons sans la dite couture arrière. Éviter les blessures. Kyle Whaley est physiothérapeute et directeur du cabinet Propel dans la grande région de Toronto. Il insiste sur l'importance d'avoir des vêtements adaptés. Par exemple, une paire de jeans. Les bordures des poches arrière sont proches, voire sur des points de pression. Des os juste sous la peau. Les personnes ayant reçu une opération de la moelle épinière sont à plus grand risque d'avoir des plaies de pression, explique-t-il. Les plaies de lit sont des dommages sur la peau lorsque celle-ci est en pression continue contre une surface solide comme un lit ou un fauteuil. Elles sont un véritable problème de santé pour les patients, comme le note Dominique Gélina Bronsard, membre des ergothérapeutes du Québec. Quand c'est attrapé dès le début, ça peut se gérer. Quelqu'un avec des plaies plus profondes, ça demande des traitements plus spécialisés. Il faut souvent les aliter. C'est problématique pour les gens qui doivent aller au travail ou à l'école, souligne-t-elle. Rendu à un certain stade, il faut faire des formes de débridement, couper les tissus dévitalisés et nécrosés, comme si c'était un grand brûlé. Il faut enlever les tissus qui sont morts, installer des pompes pour enlever les fluides et permettre la guérison. Tous deux insistent aussi sur l'importance de vêtements dont l'allure soit aussi plaisante. Porter des vêtements qui plaisent a, selon eux, une véritable conséquence sur la santé mentale. Je trouve que c'est important pour l'estime de soi, pour qu'ils aient juste envie de sortir, mais aussi pour le milieu du travail ou de l'école pour se sentir à l'aise avec leur père. Notre société fonctionne beaucoup par l'apparence, donc avoir des vêtements qui permettent d'être à la fois confortables et d'éviter des risques de santé, tout en ayant une apparence qui réponde aux attentes, c'est important, indique Dominique Gélina Bronsard. Adapté, mais avec style. Trouver des vêtements adaptés n'est pas chose aisée. Il n'existe pas de rayon consacré à ce type de vêtements dans la plupart des magasins. Quand bien même cela serait le cas, les clients devraient pouvoir essayer les articles chez eux et pouvoir les ramener en cas de problème. La vente en ligne, rendue encore plus populaire pendant la pandémie, a certainement donné un coup de pouce aux entreprises qui vendent des vêtements adaptés. Reste toutefois que la plupart des entreprises sur ce marché visent en priorité une clientèle âgée ou hospitalisée, avec, souvent, une vision de la mode axée davantage sur le confort et le côté pratique que sur l'esthétique. Bien paraître est pourtant crucial pour Spencer West. Ce créateur de vidéos et conférencier passe ses journées à partager son quotidien particulier. Depuis ses 5 ans, il vit sans jambes. Elles ont dû être amputées en raison d'une maladie génétique. Spencer marche sur ses mains la plupart du temps, mais utilise un fauteuil roulant pour des raisons pratiques lorsqu'il sort. Trouver des vêtements a toujours été difficile pour moi, parce que j'ai de larges épaules et un torse large, mais en raison de ma maladie, ma taille n'a pas beaucoup grandi, précise-t-il. Bien que la quête soit difficile, Spencer West a toujours cherché à allier son apparence à son dynamisme. Je cherchais un manteau élégant. En tant que conférencier inspirant, je fais des conférences et je vais dans des événements où il faut être bien habillé. Donc, je voulais un manteau pour ce type d'occasion. Je voulais quelque chose qui ne soit pas trop long pour que ça ne traîne pas par terre, mais qui tombe correctement sur la chaise et qui s'adapte bien à différentes tenues. Par un ami commun, il a pu rencontrer Izzy Camilleri. Spencer a une grande présence et une grande communauté. On a décidé de faire une vidéo autour de la création de ce manteau, explique-t-elle. Si elle ne fait pas très fréquemment de pièces sur demande, la réflexion autour du manteau nous offre un aperçu du minutieux travail d'adaptation d'un vêtement au demeurant commun. C'est un manteau qui devait fonctionner en position assise. Mais Spencer a de très larges épaules, de très longs bras. Il a un torse court. Et de la manière dont il se tient sur sa chaise, il avait besoin qu'on structure le manteau sur le devant pour éviter que ça ne fasse plein de plis, explique Izzy Camilleri. Un travail de fourmi qui, en fin de compte, se solde souvent par un sourire sur le visage de ceux qui enfilent leur nouvelle acquisition. C'était vraiment émouvant de le porter pour la première fois. Ça m'a pris 40 ans pour trouver ce que je voulais, pour avoir un manteau qui est beau et qui fonctionne pour moi. On a fini au printemps, mais dès que l'automne est revenu, je me suis empressé de le porter, raconte Spencer West, reconnaissant l'avoir plusieurs fois porté chez lui pour son propre plaisir. usant les miroirs plus qu'à l'accoutumée. L'accessibilité aussi pour le porte-monnaie. Le marché du vêtement accessible, bien qu'en expansion, reste encore confidentiel. Si Easy Camilleri observe un intérêt de marques comme Tommy Hilfiger depuis 2015, Nike, Target ou plus récemment Victoria's Secret, les vêtements adaptés sont loin d'inonder le marché. En découle aussi un coût. La petite entreprise Is Adaptive, qui emploie de 6 à 7 personnes, s'affaire à maintenir une certaine qualité. Celle des tissus, par exemple, est importante. Les gens qui vivent avec des handicaps usent beaucoup leurs vêtements. Souvent, les gens sont transférés d'un point A à un point B en les attrapant par leurs vêtements. Il y a beaucoup de saleté qui peut s'accumuler en bas des pantalons ou au niveau des manches. Il y a beaucoup de lavage, précise la conceptrice de mode. Grâce à des modèles de base élaborés depuis plusieurs années, la marque a pu commencer à faire fabriquer ses vêtements à l'étranger. Il y a beaucoup de gens avec un revenu fixe. Certains ne peuvent pas travailler. Je me devais d'arriver à un point où je pouvais déplacer la production à l'étranger. Dans certains cas, j'ai pu réduire le prix des produits de 50%, note Easy Camilleri. Sa ligne de vêtements comprend toutefois des pantalons de 80 à 89 $ et des chandails autour de 70 $, des prix encore loin des produits des marques grand public. Des vêtements dans lesquels vivre comme tout le monde. Anita Kaiser, Anthony Liu et Spencer West ne jurent que par les vêtements Is Adaptive. Tous avancent la même raison. Ils y ont trouvé des vêtements à leur goût dans lesquels ils se sentent eux-mêmes. Il y a ce stéréotype des gens en fauteuil qui ne portent que des pantalons de sport, qu'ils ne s'habillent pas bien. Mais la raison, c'est que c'est facile à enfiler, ça va bien, comparé à beaucoup de jeans du commerce avec des tailles qui ne vont jamais, souligne Anthony Liu. Anita Kaiser reconnaît que cela enlève un peu de cette anxiété de savoir quoi porter et si ça va bien nous aller. « Maintenant, dit-elle, je n'ai plus vraiment à me soucier de ça. Je sais que j'ai une garde-robe qui fonctionne pour moi. » Quant à l'accessibilité financière, Spencer West espère enlever les œillères d'une industrie qu'il estime encore trop peu au fait des questions d'inclusivité. On est souvent vu comme un marché de niche et pas assez lucratif. Mais on représente une large part de la population et on est aussi le seul groupe minoritaire par lequel tout le monde va passer, que ce soit temporairement ou de façon permanente. Malgré tout, il admet que la société se réveille doucement et réalise que les personnes en situation de handicap désirent les mêmes choses que le reste de la société. C'était « Vivre sa vie pleinement avec style dans des vêtements adaptés au handicap », un texte de Julien Sahukiyo, paru le 2 juin 2024 dans Radio-Canada.
Un crédit d'impôt sous-utilisé par les Québécois. Un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru le 12 janvier 2024 dans l'actualité. Les critères d'admission au crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH, sont plus larges que vous ne pourriez le croire. Près de 150 000 Québécois échappent chaque année plus d'un milliard de dollars d'aide fédérale parce qu'ils se prévalent moins que les autres Canadiens du crédit d'impôt pour personnes handicapées, CIPH. Or, ce crédit, dont l'admissibilité est plus large que son nom le laisse entendre, non seulement donne droit à un généreux crédit, mais constitue le portail de tous les programmes fédéraux destinés aux personnes handicapées. Avec les années, le CIPH est devenu la clé de la panoplie de mesures et de prestations fédérales, explique Guillaume Parent, président de FinHandicap, un cabinet de planification financière pour les personnes handicapées. Ce crédit, d'une valeur d'environ 9 000 $ par an, 9 428 $ pour l'année d'imposition 2023, est non remboursable, mais transférable. Autrement dit, même si vous ne payez pas d'impôts, la personne qui subvient à vos besoins peut profiter de la partie non utilisée de votre crédit d'impôt. Même chose pour le supplément pour enfants handicapés d'environ 5 000 $. Et si vous avez de l'impôt à payer, le CIPH réduira votre facture. Le fédéral offre une réduction de 15 % de la valeur du crédit, ce qui, une fois soustrait l'abattement d'impôt du Québec, représente une économie finale de 1 181 $ en 2023. Sans le CIPH, impossible de souscrire au généreux régime enregistré d'épargne invalidité, REEI, assorti de subventions pouvant aller jusqu'à 90 000 $ en tout. Le CIPH donne également droit au supplément pour personnes handicapées, de l'allocation canadienne pour les travailleurs, à la prestation pour enfants handicapés et au crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Il ouvre aussi la porte à une douzaine d'autres programmes et crédits fédéraux, tels que la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, le montant pour l'achat d'une habitation, les dépenses pour l'accessibilité domiciliaire ou le supplément remboursable pour frais médicaux. Selon la situation financière de la personne, cela peut représenter une dizaine de milliers de dollars supplémentaires par an, voire plus. Se priver du CIPH revient à se priver de tout cela. C'est ce qui le rend intéressant, même pour une personne qui ne paie pas d'impôts, dit Guillaume Parent. Ce n'est pas juste un crédit comme les autres. Des critères élargis. Depuis la création du programme en 1988, les critères d'admissibilité s'élargissent d'année en année. Pas besoin d'être en fauteuil roulant ou d'avoir une canne blanche. Le CIPH s'applique en réalité à quiconque subit une limitation notable dans ses activités quotidiennes pendant 12 mois et plus. Si vous avez du mal à voir, marcher, parler, entendre, vous nourrir, vous vêtir ou évacuer, en raison d'une stomie par exemple, vous êtes peut-être admissible. C'est aussi le cas si vous requérez plus de 14 heures par semaine de soins thérapeutiques essentiels comme la dialyse, l'insulinothérapie, la physiothérapie thoracique ou l'oxygénothérapie. « J'y ai droit même si je travaille », explique Guillaume Parent, 45 ans, atteint de paralysie cérébrale et qui a fondé son cabinet en 2008 après des études en finance à l'Université Laval. Le fait de pouvoir participer à des activités de loisirs ou d'accomplir des tâches ménagères ne vous disqualifie pas non plus. Les critères élargis incluent désormais les limitations liées à l'autisme, aux troubles sévères d'apprentissage et à la santé mentale. L'ARC considère désormais les limitations cognitives ou les problèmes comportementaux qui compliquent, par exemple, l'exécution de transactions courantes ou la capacité de maîtriser ses impulsions, de choisir un vêtement approprié à la température, de reconnaître le risque d'être exploité par les autres. Toutes ces limitations sont également cumulables. Autrement dit, une personne âgée, dont le problème d'audition n'est pas très important, pourrait tout de même se qualifier si, par exemple, Elle a en outre du mal à se déplacer ou à réaliser ses tâches quotidiennes. Le défi du formulaire. Vous pouvez réclamer le crédit grâce au formulaire T2201, désormais offert en ligne. Ce formulaire, assez long, comporte une partie courte à remplir par la personne handicapée ou un proche et une partie longue à remplir par un professionnel de la santé qui atteste les limitations. Les médecins et les infirmières praticiennes peuvent remplir le formulaire, quel que soit le type de déficience, mais d'autres spécialistes, optométristes, audiologistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, orthophonistes, y sont autorisés dans leur champ de compétences. Si vous faites la demande en ligne, vous devez commencer par la partie A, celle à remplir par la personne touchée par le handicap. L'Agence du revenu du Canada, ARC, vous attribuera alors un numéro de référence qui servira aux professionnels pour remplir la partie B. Certains médecins sont parfois récalcitrants à signer le formulaire. Ils sont peu formés à le remplir et un grand nombre ne pense même pas à le proposer, alors que ça devrait être automatique, explique Guillaume Parent, aussi fondateur de l'OSBL, Fine Autonome, voué à faciliter l'accès à l'aide financière pour les personnes handicapées. Au fil des années, Guillaume Parent a constaté que certains médecins ont tendance à minimiser la portée des limitations dans le quotidien. D'autres demandent trop cher pour remplir le document. Certains vont refuser, sous prétexte que le CIPH est inutile pour une personne qui ne paie pas d'impôts, alors que ce crédit ouvre la porte à plusieurs autres programmes. Une fois le formulaire rempli, il faut compter de 8 à 12 semaines avant que la réponse, appelée « avis de détermination », arrive dans la boîte aux lettres. Si la demande est faite en ligne, la réponse vient plus rapidement. Il se peut que les fonctionnaires responsables demandent des précisions aux professionnels, mais leur interprétation est plutôt libérale. 89 % des demandes sont acceptées, selon l'ARC. On peut même réclamer le crédit rétroactivement pour un maximum de 10 ans simplement en cochant la case à cet effet sur le questionnaire. L'ARC fera alors les corrections et vous enverra un remboursement d'impôts incluant les arriérés. Selon votre niveau d'imposition, le chèque pourrait facilement dépasser les 10 000 $. Le ministère québécois. Aussi bien chez Fine Autonome qu'à l'ARC, bien des gens se creusent la tête pour comprendre pourquoi moitié moins de Québécois se prévalent du CIPH en comparaison de la moyenne canadienne. L'analyse fine des statistiques révèle des variations de comportement importantes selon l'âge ou le type de handicap. Par exemple, pour ce qui concerne les limitations liées à la vision ou à la parole, la proportion de Québécois qui réclament le crédit est quasiment identique à celle des autres Canadiens. Toutefois, quand il s'agit de marcher ou de s'habiller, l'écart dépasse la moitié. Et l'écart global se creuse avec l'âge. Il ne représente que le quart chez les 18 ans et moins, mais la moitié chez les 65 ans et plus. Selon Guillaume Parent, la clé du mystère se trouve dans la terminologie. En anglais, le crédit d'impôt s'appelle « Disability Tax Credit » et n'invoque pas la notion de handicap, mais une limitation. Or, bien des gens hésitent à se déclarer handicapés. Surtout si cette limitation est temporaire ou liée au vieillissement. C'est une affaire de perception, explique Guillaume Parent, également membre du Comité consultatif des personnes handicapées à l'ARC. Bien des Québécois âgés ne se voient pas comme handicapés. Ils se disent juste qu'ils sont vieux. C'était un crédit d'impôt sous-utilisé par les Québécois. Un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru le 12 janvier 2024 dans L'Actualité. Ottawa annonce un sommet sur l'accessibilité du transport aérien en mai. Un texte de la presse canadienne, paru le 18 mars 2024 dans L'Actualité. Le gouvernement fédéral affirme qu'il organisera un sommet sur l'accessibilité du transport aérien en mai en raison de ce qu'il qualifie d'obstacles tout à fait inacceptables pour les Canadiens vivant avec un handicap. Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a déclaré que les compagnies aériennes n'ont pas réussi à respecter les normes auxquelles les passagers vivant avec un handicap s'attendent ou méritent, appelant à une plus grande responsabilisation du secteur de l'aviation. David Lepofsky, professeur-chercheur invité sur les droits des personnes vivant avec un handicap à l'Université Western, affirme que le temps des bavardages est révolu depuis longtemps et que des règles et une application plus stricte sont nécessaires pour garantir une expérience de voyage digne à tous les passagers. Lui et d'autres défenseurs soutiennent que des lacunes persistent après les réformes législatives de 2019 et que les régulateurs restent réticents à imposer des amendes suffisamment importantes pour dissuader les violations. Le gouvernement affirme que le sommet sur l'accessibilité du 9 mai vise à réunir des représentants de l'industrie et des communautés de personnes vivant avec un handicap pour discuter des problèmes et identifier des solutions. C'était Ottawa annonce un sommet sur l'accessibilité du transport aérien en mai. Un texte de la presse canadienne paru le 18 mars 2024 dans L'Actualité.